Om Palenza Velama Rinpoche Dagi Che Urke Medan Chula Kanjin Chen Pegone Jesunte Kusunjung Kina Jum Sel Tu Sel Sang Ye Che Dan Tso Gi Cho Nam La Jang Chum Pa Du Da Ni Kyam Su Chi Da Gin Jin So Gi Pe Se Nam Gi Jo La Ven Che Sang Ye Rumbai Shu Sangye Chedong Tsugi Chonam La Jai Chum Padu Dani Kyam Su Chi Dagin Jin Tsugi Pe Senam Gi Jola Penchi Sangye Rumbai Shu Sangye Chedong Tsogi Chonam La Jai Chum Padu Dani Kyam Su Chi Dagin Jin Tsogi Pe Senam Gi Jola Penchi Sangye Rumbai Shu
On place le corps en méditation. Chacun vérifie pendant quelques instants sa posture, avec notamment l'importance du dos droit. Les épaules légèrement rejetées en arrière. Le visage reste détendu. On médite les yeux ouverts. Essayez de ressentir le lien qui existe entre cette posture du corps et l'esprit. Essayez de ressentir par cette posture combien l'esprit peut se poser immédiatement, trouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Puis laissez de côté tout ce que vous avez accompli aujourd'hui, tous vos soucis, tous vos questionnements, tout ce qui peut poser question pour le futur. Considérez votre moment de méditation comme un moment pendant lequel vous faites du bien à la fois à votre esprit et à votre corps, en essayant d'être dans le moment présent, ici et maintenant. Et pour les anciens qui ont l'habitude de méditer, immédiatement vous vous placez dans cette vigilance qui vous permet d'être conscient de tous les phénomènes extérieurs et intérieurs, même les plus subtils. Et demeurez dans cette conscience calme, claire, qui simplement connaît, reconnaît, mais qui ne s'identifie pas, qui ne s'agrippe pas à ces phénomènes. qui les voit simplement. Qui voit le mouvement sans participer au mouvement, sans être le mouvement lui-même. Essayez d'expérimenter que l'instant présent est ce qu'il est, tel qu'il est. Les sensations sont ce qu'elles sont, les perceptions sont ce qu'elles sont, les pensées et les facteurs mentaux sont ce qu'ils sont. Vous êtes conscient de tout ce qui caractérise ce moment présent, sans l'analyser, sans le juger et sans vous identifier. Et pour les personnes dont l'esprit est un peu agité, vous vous rendez compte qu'il se porte sur tout ce qu'il perçoit, tous les mouvements qui le traversent. Ou pour les personnes qui méditent depuis peu de temps, alors établissez la vigilance en appliquant les quatre points de Shiné, du calme mental. Vous posez votre esprit sur un support de votre choix. Ce peut être la respiration, mais ce peut être un support mental. Et une fois que l'esprit est sur ce support, alors établissez la vigilance qui vous permet de rester conscient du support tout en étant conscient des phénomènes et des phénomènes extérieurs et des phénomènes intérieurs. Et il y a distraction lorsque vous perdez conscience du support. Dans ce cas, vous reconnaissez l'objet qui a entraîné votre conscience et vous le lâchez, c'est-à-dire que sans chercher à ce qu'il disparaisse, en acceptant sa présence, vous ne lui portez plus l'attention que vous lui portez. Donc tout ceci doit se faire avec grande détente. Et en même temps, grande clarté, grande lucidité, pleine conscience. Et une fois que vous l'avez lâché, alors vous replacez votre esprit, votre conscience sur le support. Et pour les personnes qui demeurent dans la consciente connaissante, expérimentez combien elle peut être calme, détendue, claire, lucide, présente à tout ce qui, à toutes les expériences qui s'élèvent, mais qui, sans s'identifier à tout cela, demeure dans sa paix naturelle et détendu. Il me semble qu'il est très important de considérer notre moment de méditation comme l'occasion d'expérimenter les choses telles qu'elles sont, de faire l'expérience que les phénomènes, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, sont ce qu'ils sont et tels qu'ils sont. Et de voir comment notre esprit réagit et vit ces phénomènes. Et les phénomènes, quels qu'ils soient, et tels qu'ils se présentent à l'esprit. Il n'y a pas à trier tel ou tel phénomène, rejeter ceux qui nous semblent désagréables, inconfortables, voire douloureux, et puis à favoriser les phénomènes qui nous sont plutôt favorables et agréable, mais le temps de méditation est un temps d'ouverture, d'observation par la vigilance. Les phénomènes sont ce qu'ils sont. Ils s'élèvent dans mon esprit des tas de pensées, des tas de facteurs mentaux par rapport à tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce que je vais vivre peut-être demain, et il y a peut-être de l'appréhension, une certaine angoisse qui peut s'élever en pensant à ce que je vais vivre dans le futur, etc. Faisons l'expérience de regarder avec une bienveillance équanime tout ce qui s'élève, tout ce qui s'élève. De regarder cela, donc d'avoir une clarté, une conscience claire, connaissante, qui reconnaît absolument tout, les phénomènes, mais qui ne s'identifie pas à ces phénomènes. Qui ne dit pas, oh, il y a ça, je, donc je crains, je vais avoir peur, je regrette, oh, je suis triste, ci et ça. Et sans s'identifier, voir que cette conscience, elle est consciente, elle est vive, j'allais dire vivante, elle est vive, elle est claire, mais que si elle ne s'identifie pas, elle fait l'expérience de la présence de ces phénomènes, mais il n'y a pas d'angoisse qui s'élève. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tristesse. Donc, il y a une possibilité de vivre les phénomènes tels qu'ils sont, sans que s'élève toute cette horde de perturbations mentales. Essayez dans votre pratique de vraiment être sûr de cela. Et pour cela, il faut établir la vigilance. Il faut que la vigilance soit présente. Donc pour les personnes qui méditent depuis peu de temps, oubliez un peu cela. Ça, c'est la deuxième phase. La première phase, c'est vraiment d'établir la vigilance par l'établissement des quatre points tels que je les ai rappelés tout à l'heure. Et quand cette vigilance s'établit de façon, on va dire, quasi naturelle, alors, eh bien, elle peut aider cette conscience à ne pas se focaliser, s'identifier à l'ensemble de ces phénomènes qui s'élèvent. Et alors, après, eh bien, on constate que, quelles que soient les situations, notre esprit peut rester calme, tranquille et paisible. Et ce n'est pas un état d'indifférence. L'esprit ne devient pas indifférent à ce qui se passe. Au contraire, il y a une acuité très fine et de plus en plus fine. Mais il vit ces phénomènes sans s'identifier et en restant, non pas détaché, non pas indifférent, mais en étant calme, en restant calme et paisible. Parce que les phénomènes, on ne va pas pouvoir modifier et éviter tous les phénomènes. Il y en a certains que l'on peut éviter. Mais si on doit vieillir, on va vieillir. On a beau se faire tirer la peau, on a beau faire de l'aquagym ou je sais pas quoi, et à un moment, on va se poser des questions. Etc., etc. Donc, notre paix intérieure ne dépend pas de la présence des phénomènes agréables ou de l'absence des phénomènes désagréables. On doit travailler autrement. Ne plus considérer la présence de ces phénomènes comme un problème, mais le problème vient de comment mon esprit vit, réagit par rapport à la présence de ces phénomènes. Et c'est pourquoi dans la langue tibétaine, on dit qu'un bouddhiste, il est Nangpa, c'est-à-dire, c'est littéralement un intérieur, parce qu'il considère que la solution de ces problèmes est à l'intérieur de lui-même. Et cette solution ne dépend pas des phénomènes eux-mêmes. Voilà. Alors pour le refuge, quelques mots. Quel est votre prénom?
Karine.
Vous savez en quoi vous prenez refuge? Bon, les trois joyaux, mais les trois racines aussi? Non, les trois joyaux, Bouddha, Dharma et Sangha. Bouddha, c'est plus l'état de Bouddha, enfin cette potentialité de réalisation de l'éveil commune à tous les êtres, pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres ont cette nature de Bouddha. Le dharma, c'est le chemin qui va permettre de réaliser cette nature de Bouddha, cet éveil. Et la sangha, c'est ceux qui, de par leur réalisation aujourd'hui, peuvent nous montrer vraiment, de façon ultime, comment accomplir l'intégralité du chemin. Et dans le bouddhisme tibétain, on ajoute les trois racines, lama, yidam et protecteur. Lama, c'est la notion de lama racine. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Les yidam, c'est les représentations symboliques des différentes qualités de cette nature de Bouddha. Et puis les protecteurs, c'est, on appelle ça les protecteurs parce que c'est l'aspect sagesse qui coupe, tranche la saisie égotique de façon claire, nette, radicale, quelquefois brutale et violente. Donc c'est pourquoi les protecteurs sont toujours représentés de façon courroucée, avec entourés de flammes, du feu de la sagesse qui brûle l'ignorance, avec des outils, des armes qui tranchent, qui transpercent, qui voilà, pour montrer que la compassion, enfin la sagesse, par le biais d'une compassion directe, quelquefois brutale, hein, elle peut agir de cette façon-là pour couper la saisie égotique. C'est ce qu'avait dit Ringo Rinpoche la dernière fois que je l'ai vu à Berlin. Dans son enseignement, il avait dit « Soyez plus souvent un protecteur. » C'est-à-dire que, quelquefois, il faut dire non. Que ça nous plaise ou non, il faut arrêter de négocier et de se dire « Oui, plus tard, je verrai, etc. » Dans l'instant présent, quand la saisie égotique, on en est conscient, à un moment donné, il faut dire « Toi, je t'ai assez vu, schlaf. » Ça coupe la tête. Mais c'est radical, c'est une décapitation, c'est voilà. Comme disait Trungpa Rinpoche, c'est une opération chirurgicale sans anesthésie. De temps en temps, il faut être comme ça. Voilà. Alors ensuite, mais le point principal, c'est de reconnaître que cet éveil est déjà là. Donc réaliser l'éveil, ce n'est pas obtenir quelque chose, ce n'est pas s'approprier quelque chose, hein. C'est plutôt se débarrasser de quelque chose, c'est se débarrasser de l'ignorance, le fait de ne pas voir la nature de cet esprit. Alors que jusqu'à présent, tant qu'on n'a pas réalisé cette nature de l'esprit, on conçoit cet esprit comme ayant une certaine forme d'existence, et on appelle ça une illusion, parce que ça ne correspond pas à la réalité, à la nature même de l'esprit. Et ne voyant pas cette nature de l'esprit, on appelle ça l'ignorance. C'est cette ignorance, d'après le bouddhisme, c'est cette ignorance qui est la racine de toutes nos souffrances. Donc quand on prend refuge, je dis souvent sous forme de boutade, on prend refuge parce que on en a marre d'en avoir marre, quoi. On en a marre de souffrir, quoi. Mais il faut faire le lien avec la cause de la souffrance. Mais prendre refuge, c'est vraiment vouloir mettre un terme à cela, pour soi et pour les autres. Hein? Mettre un terme à notre souffrance, mettre un terme à la cause de cette souffrance. Et de là va s'écouler, va découler le refuge dans le dharma, dans la voie, le refuge dans la sangha, ce qui montre la voie, etc. Et le deuxième élément très, très important, c'est de le faire pour soi, mais aussi pour les autres. Quand on prend refuge dans le bouddhisme tibétain, on prend refuge dans le Mahayana, on prend refuge dans le grand véhicule. C'est une des branches, le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, est une des branches du Mahayana, le grand véhicule. Donc on ne peut pas avoir une motivation uniquement individuelle, on doit inclure, avoir la motivation de libérer tous les êtres de cette ignorance, parce qu'on comprend que c'est cette ignorance, eh bien, qui est la cause de leur souffrance. Et que tant que cette ignorance n'est pas déracinée, elle produit de la souffrance. Parce que c'est un fonctionnement de l'esprit qui ne correspond pas à la réalité, et donc ça crée des facteurs perturbateurs, des facteurs mentaux négatifs, etc. Et sous l'emprise desquels, on accomplit des actes négatifs, et c'est comme ça qu'on arrive à des querelles, à des guerres, à toutes sortes de ce qui fait les news à longueur de journée. à la racine de chacune des situations catastrophiques qui se passent dans le monde, vous êtes sûr de trouver un facteur perturbateur. Sûr. Et le facteur perturbateur, il s'élève à partir de cette ignorance fondamentale. Ensuite, quand on prend refuge, eh bien, on prend refuge jusqu'à l'éveil. C'est pas simplement pour 10 ans, 20 ans ou pour cette vie. Si on réalise l'éveil dans 10 ans, ben voilà, ça sera fait pour 10 ans. Mais voilà, on développe cette motivation de suivre le chemin, eh bien, jusqu'à l'accomplissement. Et ça, c'est un point qu'on avait, je crois, évoqué le mois dernier. Hein, le but de notre engagement dans le dharma, mais c'est de réaliser l'éveil. C'est pas simplement de progresser un petit peu sur la voie, mais c'est d'avoir cette motivation de réaliser ce que le Bouddha a réalisé. Et à quoi s'engage-t-on quand on a pris refuge? Gampopa quel texte d'Agbotarien, précieux ornement de la libération. Et il établit 9 engagements, mais qu'on peut résumer à 3. C'est premièrement se considérer être un refuge pour les êtres, dans la limite de nos possibilités, bien sûr, hein, mais par notre bodhicitta, eh bien, d'être se considérer comme un refuge, une aide pour les êtres. Et le deuxième engagement, c'est de maintenir le refuge vivant dans notre esprit. Alors, on peut réciter pour cela la prière de refuge qu'on a récité par exemple au début, 7 fois par jour, mais c'est surtout à l'intérieur de soi, garder cette confiance dans cette potentialité de l'éveil. Et puis le troisième engagement, eh bien, c'est lié à cette confiance, c'est témoigner du respect envers tout ce qui représente les 3 joyaux. Tout ce qui est le dharma, par exemple, toutes ces feuilles que je vous ai données, c'est déjà un texte du dharma, eh bien, on ne va jamais poser le dharma à même le sol. Donc on le pose toujours sur quelque chose. C'est simplement pour développer une attitude intérieure, une attitude de l'esprit par rapport au dharma. Ce n'est pas quelque chose que l'on va considérer comme banal, ordinaire, mais on va traiter cela avec respect, parce que c'est le chemin. Et puis, la sangha également, et puis toutes les représentations du Bouddha, que ce soit en statue, que ce soit en photo, en tant qu'à, etc. En général, on place tout ça sur des lieux plutôt élevés, propres, voilà. Juste pour développer cette attitude intérieure de l'importance que l'on donne, en fait, à cette représentation des 3 joyaux. Voilà. Donc, si après ça, vous avez toujours envie de prendre refuge, bah, vous venez ici avec votre coussin. Donc les autres personnes, vous pouvez accompagner Karine mentalement en récitant en même temps que Karine ce qu'elle va réciter. On va le faire en tibétain, donc vous répéterez après moi, mot à mot. Et le sens de ce que vous allez dire, c'est je demande au Bouddha des 3 temps et des 10 directions, et je demande au Bodhisattva de me prêter attention, moi, et vous direz votre prénom. À partir de maintenant et jusqu'à l'éveil, pour le bien de tous les êtres, je prends refuge, les lamas de la lignée, je prends refuge en les yidams, je prends refuge en le Bouddha, je prends refuge en le Dharma, je prends refuge en la Sangha, et je prends refuge en l'assemblée des protecteurs. Le terme prendre refuge, et ça j'aime bien le redire, c'est une mauvaise traduction, prendre refuge. Littéralement, en tibétain, c'est entrer en refuge. Donc ça montre un mouvement de la personne. Elle fait le mouvement elle-même pour entrer dans la voie du dharma. Et en Occident, c'est d'autant plus important que personne ne vous a obligé, par exemple, à prendre refuge ce soir. Ce ne sont pas vos parents, pas votre famille. Voilà. Donc vous y avez réfléchi, vous avez mûri votre réflexion et vous avez décidé un jour d'entrer dans la voie. Donc c'est plutôt entrer dans la voie du refuge qu'on devrait dire. Voilà, on a l'habitude de dire prendre refuge, on prend rien du tout, quoi. Hein? Mais c'est une démarche. Donc vous allez vous représenter mentalement dans l'espace en face de vous, les trois joyaux, la présence des trois joyaux et des trois racines, et tous les êtres qui sont à vos côtés. Et vous joignez les mains et vous dites après moi. Chochuna. Chupe. Sangye dong. Jangchup sempa. Tamche dala. Gongsu seul. L'open dala. Gongsu seul. Da. Votre prénom.
Karine.
Shekiwe. Kyangtu. Dinezunte. Jisi. Jangchub. Ningpola. Chike Bardu. Palden Lama. Dampa Namla. Kyapsu Chiyo. Yidam. Kilkorgi. Latso Namla. Kyapsu Chiyo. Sangye. Chumdende. Namla. Kyapsu Chiyo. Dampe Che. Namla. Kyapsu Chiyo. Pape Gendun. Namla. Kyapsu Chiyo. Pao. Kandro. Chekyong. Sungmetso. Yesheki. Chendong. Denpa Namla. Kyapsu Chiyo. À la deuxième récitation, vous pensez à tous les êtres, vos proches, mais tous les êtres de façon plus équanime. Et en leur nom, en développant la bodhicitta, l'esprit d'éveil, vous renouvelez votre demande à entrer dans la voie du refuge. Chochuna.
Chochuna.
Shupe.
Shupe.
Sangye dong.
Sangye dong.
Jangchub sempa.
Jangchung sempa.
Tamche dala.
Tamche dala.
Gong susel.
Gong susel.
Lopen dala.
Lopen dala.
Gong susel.
Gong susel.
Da.
Da.
Votre prénom?
Karine.
Shekiwe.
Shekiwe.
Kyangtu.
Kyangtu.
Dine zunte.
Dine zunte.
Jisi.
Jisi.
Jangchub.
Jangchub.
Ningpola.
Ningpola.
Chike Bardu.
Chike Bardu.
Palden Lama.
Palden Lama.
Dampa Namla.
Dampa Namla.
Kyapsu Chiyo.
Kyapsu Chiyo.
Yidam.
Yidam.
Kilkorgi.
Kilkorgi.
Latso Namla.
Latso Namla.
Kyapsu Chiyo.
Kyapsu Chiyo.
Sangye.
Sangye.
Chumdende.
Chumdende.
Namla.
Namla.
Kyapsu Chiyo.
Kyapsu Chiyo.
Dampe Che.
Dampe Che.
Namla.
Namla.
Kyapsu Chiyo.
Kyapsu Chiyo.
Pape Gendun.
Pape Gendun.
Namla.
Namla.
Kyapsu Chiyo.
Kyapsu Chiyo.
Pao.
Pao.
Kandro.
Kandro.
Chekyong.
Chekyong.
Sungmetso.
Sungmetso.
Yesheki.
Yesheki.
Chendong.
Chendong.
Jenpa Namla.
Jenpa Namla.
Kyapsu Chiyo.
Kyapsu Chiyo.
Maintenant, comme offrande pour prendre refuge, je vais vous couper une petite mèche de cheveux. C'est la partie la plus supérieure de notre corps que l'on offre. Je vais vous dire en tibétain, êtes-vous heureuse d'entrer en refuge? Je vous dirai trop là, ce qui veut dire j'entre avec joie.
Trop là.
Votre nom de refuge. Je vous ferai une plus jolie carte que ça, hein, pour votre refuge. Mais je suis venu, j'ai tout oublié. Karma Eusel Lamo. Donc maintenant, à la troisième récitation. Vous pouvez reprendre votre coussin. À la troisième récitation, vous allez... Restez là. C'est pas fini. À la troisième récitation, vous allez penser que vous recevez le refuge dans votre esprit, et quand il faudra dire votre nom, vous direz votre nom de refuge. Donc maintenant, vous pensez que vous recevez le refuge. Chochuna.
Chochuna.
Shupe.
Shupe.
Sangye dong.
Sangye dong.
Jongchup sempa.
Jongchup sempa.
Tamche dala.
Tamche dala.
Gong susel.
Gong susel.
Lopen dala.
Lopen dala.
Gong susel.
Gong susel.
Da.
Da.
Votre nom de refuge.
Karma eusel lamo.
Shekiwe.
Shekiwe.
Kyongtu.
Kyongtu.
Dine zungte.
Dine zungte.
Jisi.
Jisi.
Jongchub.
Jongchub.
Ningpola.
Ningpola.
Chike bardu.
Chike bardu.
Palden lama.
Palden lama.
Dampa namla.
Dampa namla.
Kyapsuchiyu.
Kyapsuchiyu.
Yidam.
Yidam.
Kilkorgi.
Kilkorgi.
Latso namla.
Latso namla.
Kyapsuchiyu.
Kyapsuchiyu.
Sangye.
Sangye.
Chomdende.
Chomdende.
Namla.
Namla.
Kyapsuchiyu.
Kyapsuchiyu.
Dampeche.
Dampeche.
Namla.
Namla.
Kyapsuchiyu.
Kyapsuchiyu.
Pape gendun.
Pape gendun.
Namla.
Namla.
Kyapsuchiyu.
Kyapsuchiyu.
Pao.
Pao.
Kandro.
Kandro.
Chukyong.
Chukyong.
Sungmetsu.
Sungmetsu.
Yesheki.
Yesheki.
Chendong.
Chendong.
Jenpa namla.
Jenpa namla.
Kyapsuchiyu.
Kyapsuchiyu.
Donc vous avez reçu les vœux de refuge. Je vais vous dire en tibétain que vous avez reçu les moyens pour réaliser l'éveil. Au moment où je claque des doigts, vous pensez que ces vœux que vous avez reçus sont scellés dans votre esprit jusqu'à l'éveil. Et vous direz l'exo, qui veut dire tout est parfait. Tout est excellent. Tapieno.
L'exo.
Voilà. J'ai l'habitude de dire quand à une personne qui prend refuge, que dans le dharma, tout ce que l'on sait, c'est ce que l'on demande. C'est-à-dire que, vous savez qu'il n'y a pas de prosélytisme dans le bouddhisme, qu'il faut avoir, on va dire, soif du dharma, qu'il faut oser poser des questions, oser étudier, oser approfondir notre compréhension du dharma. Les lamas sont là s'ils peuvent répondre, les rinpoches sont là pour transmettre vraiment la nature de l'esprit. En général, le lama dit non quand on lui pose une question, parce qu'il veut être sûr que la question posée, c'est pas juste une pensée qui a traversé l'esprit, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, ni pour vous, ni pour les lamas. Il faut que le lama soit sûr que l'instruction demandée, elle est vraiment utile. Donc, ne vous étonnez pas si vous posez une question à un lama, est-ce que je peux faire ça, etc. Vous direz, on verra plus tard. C'est pas qu'il est mal luné. C'est pas qu'il a envie de vous renvoyer comme ça. C'est pas qu'il n'a pas le temps. Il faut simplement lui reposer la question. Et en général, au bout de trois fois, il ne peut plus dire non. Mais ne faites pas comme Sherab. J'aime bien rappeler Sherab. Non, c'est Sherab. Non, c'est qui?
C'est Hervé.
Ah non, c'est Hervé. Voilà, un garçon dans un autre tchuling qui, connaissant la combine, dit Lama, je voudrais savoir ça. Lama, je voudrais savoir ça. Lama, je voudrais savoir ça. Donc, j'ai dit trois fois. Maintenant, vous devez répondre. Voilà. Mais tout ça pour dire, j'insiste un peu là-dessus parce que pour nous occidentaux, c'est pas une démarche qui est toujours évidente, qui est toujours facile, quoi. Hein. Mais c'est vraiment la façon de faire des Asiatiques et des Tibétains en particulier. Il faut que, eh bien, on ait envie de que ce soit important pour nous, la question que l'on pose. Voilà. Et puisqu'on se revoit ce week-end, je vous aurai préparé avant la carte en bonne et due forme de refuge avec le cordon de refuge qu'a donné le Karmapa pour cela. Voilà. Merci. Ah oui, karma eusel lamo. Karma, c'est... Alors, dans la lignée Kagyupa, la plupart de nos noms commencent par karma, parce que c'est le détenteur de la lignée, c'est le karmapa. Donc, il y a une référence au karmapa. Ensuite, eusel, littéralement, c'est la claire lumière, c'est-à-dire la claire lumière de l'esprit. l'esprit est vacuité, mais il est clarté aussi. Donc c'est l'aspect clarté de l'esprit. Et l'amo, c'est la déesse de la claire lumière. Alors, je crois qu'ici, nous en sommes à la strophe 7. C'est ça? Bien. Ça tombe bien. Alors, vous pouvez prendre le texte, strophe 7. Ces deux strophes-là qui viennent sont vraiment très, très importantes. Et je m'appuierai vraiment sur la... le commentaire notamment de Boka Rinpoche. Je voudrais rappeler que Boka Rinpoche était dans la lignée Kagyupa, puisqu'il est décédé en 2004 d'une crise cardiaque, mais dans la lignée Kagyupa, il était vraiment considéré comme un grand maître du Mahamudra. Et à tel point que le Karmapa, le 16e Karmapa, l'avait désigné comme maître de retraite pour les futurs lamas de Rumtek au Sikkim en Inde. C'était le siège du Karmapa. Donc tous les lamas qui étaient formés par le Karmapa, eh bien, Boka Rinpoche était leur maître de retraite, justement, pour le Mahamudra. Et quand il parlait de la nature de l'esprit, il savait de quoi il parlait, quoi. Et comme tous ces grands maîtres, lorsque ils sont décédés, eh bien, on a pu constater, alors, au moment de leur décès, eh bien, qu'ils connaissaient parfaitement, qu'ils avaient réalisé parfaitement le Mahamudra, c'est-à-dire la nature de l'esprit, puisque leur mort s'est passée de façon absolument sans aucune appréhension, que ce soit Kalu Rinpoche, Boka Rinpoche, quand il a eu sa crise cardiaque. Il n'est pas mort tout de suite, il a demandé à aller à l'hôpital, mais il y avait 3 heures de route. En cours de route, il a senti les signes de la mort qui arrivaient, il a fait arrêter la voiture, il s'est fait poser sur le bord de la route, il s'est mis en position de méditation. Et il est parti, quoi. Tranquillement. Donc ça veut dire que l'esprit était totalement dans sa nature de sagesse et que celle-ci était vraiment réalisée. Alors cette 7e strophe, le fondement de purification, 2 points, l'esprit en soi, union de la clarté et de la vacuité. Le purificateur, la pratique adamantine du Mahamudra. L'objet de purification, les tâches de l'illusion adventice. Le résultat de la purification, l'actualisation du Dharmakaya sans tâche. Alors, Boka Rinpoche explique que la voie de la méditation conduit à dissiper l'illusion que l'on évoquait tout à l'heure, jusqu'à ce que cette illusion se trouve totalement éliminée. Et quand cette illusion, cette non-reconnaissance de la nature de l'esprit est éliminée, eh bien cette nature de l'esprit, elle se révèle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de la forcer, il n'y a pas besoin de la titiller pour où est-ce qu'elle est, etc. Elle se révèle absolument d'elle-même. Et... le fondement de purification est l'esprit lui-même. Alors, qu'entend-on par l'esprit? Il y a plusieurs synonymes. Il y a la conscience. L'esprit, c'est ce qui fait l'expérience de la joie, du bonheur, ou de la tristesse et de la souffrance. Rinpoche explique, l'esprit se définit par la faculté de ressentir. C'est ce qui éprouve bonheur ou souffrance chez tout être. Et c'est ceci qu'il faut purifier. C'est pas cela qu'il faut purifier, c'est le fondement de la purification. C'est-à-dire qu'on travaille directement sur cet esprit en méditation. La méditation elle-même va être l'agent de purification. Alors Rinpoche continue en disant, quelle est toutefois son essence à cet esprit? Et c'est là où on peut commencer à reconnaître ce que l'on appelle l'ignorance. On ne peut pas définir l'esprit en tant qu'une chose. Et on a tous un esprit. On ressent tous quelque chose. Mais à quoi ressemble cet esprit? Est-ce qu'on peut dire qu'il qu'il a une certaine forme? Est-ce qu'il a une certaine matière? Est-ce qu'il a une certaine couleur? Donc il n'a ni forme, ni volume, ni couleur. Il est dénué de toute marque distinctive s'appliquant aux objets. Tout le monde est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut investiguer. Il faut chercher si votre esprit a vraiment une couleur, vraiment une forme, un objet, à quoi il ressemble. Où est-ce qu'il commence? Où est-ce qu'il se termine? Où est-ce qu'il se situe aussi? Hein? Ça, c'est tout l'approche analytique de l'actong, c'est-à-dire la vision pénétrante. Pour voir de façon pénétrante la nature de l'esprit, il faut commencer par se poser des questions et par chercher cet esprit. Est-ce que la nature de l'esprit correspond vraiment à ce que je pense que l'esprit est? Voilà. Donc ça commence. Je crois qu'on ne peut pas faire abstraction d'une certaine une analyse, d'une certaine observation de la nature de l'esprit. Bokhara Rinpoche disait que les Occidentaux, parce qu'on comprend tout de suite la nature de l'esprit quand on lit la description de cette nature de l'esprit, on pense qu'on l'a intégrée, qu'on l'a vraiment comprise. Mais non, il disait, vous négligez l'analyse, l'approche analytique de la vision pénétrante. Pourquoi? Parce que comprendre intellectuellement, c'est une chose, mais nous sommes pétris de cette impression que l'esprit est à une forme, que l'esprit est une entité, que l'esprit est quelque chose d'individuel, de solide, etc. Et c'est tellement imprégné, on est tellement imprégné de cette conception-là de l'esprit, que même si on comprend que non, eh bien c'est cette ignorance quand même qui se manifeste, et toujours avec force. Donc il faut aller au-delà de cette compréhension intellectuelle, mais utiliser, et ça rejoint ce qu'on avait dit le mois dernier, il faut utiliser notre intelligence, notre faculté d'analyse et de réflexion. Il n'est pas non plus localisable, on ne peut le situer ni à l'intérieur du corps, ni à l'extérieur, ni dans quelque espace intermédiaire entre les deux. Cette absence de caractéristiques objectives ou quantifiables est ce qu'on nomme la vacuité de l'esprit. Voilà. Et ça, il faut bien que ce soit clair la définition du terme vacuité, quand on parle de vacuité. Il est vide de toutes ses caractéristiques, mais ça ne veut pas dire qu'il est non existant. Quand on parle de vacuité, et ça, il faut vraiment, si vous retenez que ça ce soir, c'est bon. Mais il faut que vous repartiez ce soir en comprenant ce que l'on veut dire par vacuité dans le bouddhisme. Il y a tellement eu d'occidentaux qui n'ont pas compris ce terme-là. Même des philosophes fin 19e, début 20e, qui n'ont pas compris ce que voulait dire le Bouddha quand il disait que l'esprit était vacuité. Pour eux, vacuité était synonyme de non-existence. Vacuité veut dire vide d'existence propre, vide de caractéristiques que l'on peut attribuer aux phénomènes ou aux objets. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Vide de caractéristiques, vide d'existence propre. Et quand vous observez, vous voulez être sûr de la vacuité, par exemple, d'un objet, alors il y a deux éléments qui peuvent vous aider à faire... À avoir cette compréhension, c'est l'interdépendance de toute chose, c'est-à-dire tout ce qui constitue un objet, sans lesquels cet objet, alors là, n'aurait aucune existence. Et puis, c'est l'impermanence. Parce que l'impermanence, eh bien, démontre que rien n'est stable. Donc, il n'y a rien qui demeure, qui est éternel, qui est... Donc, tout est en continuel changement. Mais ça ne veut pas dire que ces phénomènes-là, eh bien, ne se mettent pas en place les uns avec les autres et, malgré leur impermanence, n'existe pas cette succession d'instants. Donc, cette absence de caractéristiques objectives ou quantifiables est ce qu'on nomme la vacuité de l'esprit. L'esprit est vide, mais il n'est pas pour autant une vacuité qui serait un néant. Et ça, retenez bien ça. Car il est aussi clarté. Et la clarté, c'est précisément la faculté de ressentir bonheur ou souffrance. Il y a une dynamique à l'esprit. Ainsi que la capacité de créer de multiples pensées. Donc tout le domaine mental, eh bien, ça fait partie de la clarté de l'esprit. Donc le mental n'est pas nié dans la recherche de la nature de l'esprit, mais c'est vu comme la clarté. Et là, ça rejoint le sutra de la grande sagesse, le sutra de la Prajnaparamita, qui se termine en disant « le vide est forme, la forme est vide ». C'est-à-dire que cette clarté, elle est... Comment ? Elle fonctionne avec la vacuité de l'esprit. Elle n'est pas séparée. Vacuité et clarté, ce ne sont pas deux choses séparées. Il n'y a pas la vacuité d'un côté, et puis la clarté ou la dynamique de l'esprit. La dynamique, elle provient de la clarté. Ou, en d'autres termes, cette dynamique ou la clarté, c'est le rayonnement de la vacuité. D'accord ? Donc, elle est cette vacuité. Elle est de la nature de la vacuité. Donc, toute la manifestation, par exemple, les facteurs mentaux qui s'élèvent, eh bien, ils sont vides d'existence propre parce qu'ils sont de la nature de ce qui les crée, en fait. C'est la dynamique de la vacuité. Les phénomènes mentaux, par exemple, eh bien, ne sont pas autre chose que le mouvement ou la dynamique de la vacuité de l'esprit. Et c'est cette dynamique qu'on appelle la clarté. Mais donc la clarté n'est pas séparée de la vacuité. D'où la conclusion du sutra de la grande sagesse, le vide est forme. Le vide n'est pas le néant, il se manifeste. Le vide est forme. Virgule, la forme est vide. La forme provenant de la vacuité, elle est de la nature du vide. Et dans toute la manifestation, eh bien, c'est ainsi. Non seulement les phénomènes mentaux, mais les phénomènes extérieurs sont aussi de cette même nature. Vous ne pouvez absolument pas trouver un phénomène, une situation, un objet, n'importe quoi que ce soit, qui soit existant par lui-même ou en lui-même. Donc, il est vide d'existence propre. De façon paradoxale, on pourrait dire que dans le bouddhisme, la notion d'absolu, c'est qu'il n'y a rien d'absolu, que tout est relatif. Tout existe par interdépendance de toute chose. Alors ça, on peut le comprendre, hein. Mais alors de là à en faire vraiment l'expérience, c'est autre chose. Pourquoi ça nous est difficile de faire cette expérience alors qu'on peut le comprendre facilement ? C'est parce que le fonctionnement de notre esprit est lié à des habitudes, comme disent les textes, qu'on a accumulé depuis des temps sans commencement, c'est-à-dire ça fait un moment quand même, c'est sans commencement, hein, et qui fait que ces habitudes font que, eh bien, nous sommes formatés, je pourrais dire, en la croyance que l'esprit existe en tant qu'entité, en tant que quelque chose. Quand on dit « moi », quand quelqu'un nous insulte et qu'il y a moi qui se rebiffe, il y a même la sensation d'une entité qui se trouve accusée, qui se trouve insultée, qui se trouve dure, qui se durcit immédiatement, etc. Et même si on comprend le sens de la vacuité, si tout à l'heure il y en a un qui vous insulte dans la rue, n'allez-vous pas vous dire oh, « vas-y, tout c'est vacuité ». Il y a quelque chose qui va immédiatement se serrer hein, dans l'esprit. Ça montre que ce conditionnement est vraiment très très puissant, quoi. Et qu'on ne va pas le déconditionner, si on peut dire, hein, comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on comprend intellectuellement ce qu'est la vacuité. C'est par la méditation qu'on y arrivera. Donc, la clarté, c'est l'aspect dynamique de l'esprit. Et du point de vue absolu, l'esprit en soi, l'esprit, est l'union de la clarté et de la vacuité. Et c'est l'union des deux. C'est pas l'un d'un côté et l'autre de l'autre. C'est vraiment l'union des deux. La nature même de l'esprit est clarté-vacuité indissociable, sans impureté dans son essence. Donc ça, c'est ce que Rinpoche développe dans le fondement de purification, l'esprit en soi, union de clarté, de la clarté et de la vacuité. Ensuite, le purificateur, c'est la pratique adamantine du Mahamudra. Adamantine, hein, c'est de la nature du diamant. Donc c'est, ça fait référence en fait au Vajrayana. Alors nous ne connaissons pas maintenant cette union essentielle de la clarté et de la vacuité, et une division s'est au contraire installée sous l'effet de laquelle la vacuité s'est figée dans la notion d'un sujet, dans la notion d'un moi. Et ça c'est intéressant à retenir, parce que le moi en fait provient, cette notion d'un sujet qui s'affirme, provient de la non-reconnaissance de la vacuité. Et cette non-reconnaissance entraîne eh bien, cette formation d'une entité qui s'affirme en tant que sujet, moi, personnellement, je. Voilà, ça, c'est clair, dans cette expression-là, quand on commence une phrase de cette façon-là, la vacuité n'est pas présente. Tandis que la clarté est devenue l'objet, c'est-à-dire l'autre. Et là, donc, c'est, l'ignorance fait qu'on sépare le sujet et l'objet. La non-reconnaissance de la vacuité forme le moi, le sujet, et la non-reconnaissance que tout est manifestation en fait de l'esprit en termes de clarté, donc la non-reconnaissance de la clarté, eh bien, fait que on voit l'objet ou la manifestation comme différente du sujet et non plus associée. On dissocie en fait ces deux, et se crée alors un espace, on va dire, entre le sujet et l'objet. Et c'est dans cet espace, dû à cette ignorance, à cette non-reconnaissance, que tous les facteurs perturbateurs vont pouvoir s'élever. Quand nous sommes en colère, quand nous sommes dans la jalousie, quand nous sommes pétris d'orgueil, etc., c'est la manifestation de la non-reconnaissance de la nature de l'esprit. Mais cette non-reconnaissance de la nature de l'esprit, c'est quelque chose, comme dit le texte, d'adventice, c'est-à-dire ça ne correspond pas à la nature de l'esprit. C'est une construction, c'est une ignorance, on ne reconnaît pas cette nature de l'esprit. Et ce fonctionnement en mode duel, il est dû à cette ignorance. Donc il ne fait pas partie de la nature de l'esprit. C'est la construction, c'est l'illusion qui construit ce mode de dualité. Donc ces facteurs perturbateurs et l'engendrement du karma, comme on va le voir, eh bien, c'est dû à cette illusion. Si l'illusion est déracinée, facteurs perturbateurs disparaissent, production du karma disparaît. Parce que karma et facteurs perturbateurs, pour être, eh bien, reposent sur l'illusion, sur la non-reconnaissance de la nature de l'esprit, donc sur l'ignorance. Quand il y a cette non-reconnaissance de la vacuité, et que le sujet se pose en termes de sujet, quand il y a non-reconnaissance de la clarté, et que donc on voit que l'objet différent du sujet, dans cet espace, lorsque l'objet est perçu comme favorable au sujet, eh bien c'est le désir qui s'élève. L'avidité, la volition, voilà. On se porte, c'est ce mouvement-là, vers l'objet. Et si on laisse aller cette dynamique de l'esprit, eh bien, ce désir va devenir de plus en plus fort. Appelez le désir attachement, comme vous voulez, mais c'est ce mouvement vers. Et ça va devenir de plus en plus fort, et sous l'emprise de ce mouvement, eh bien, on va se mettre à agir. Et l'acte lui-même va être porteur d'effets karmiques. Mais on voit bien que cet acte-là, il n'est pas libre parce qu'il est sous l'emprise de l'ignorance. Et en fait, bah, nous agissons toujours de cette façon-là. Mais par contre, il y a d'autres objets qui vont être considérés comme défavorables par rapport au sujet. Et là, immédiatement, le facteur perturbateur qui va s'élever, eh bien, c'est le rejet, c'est l'aversion. Et ça va être la colère, la haine, dans toutes les différentes facettes de cette aversion. Et sous l'emprise de ça, eh bien, on va agir aussi de façon, d'une certaine façon. Et puis, il y a un troisième mouvement de l'esprit. Lorsque l'objet n'est ni plaisant ni déplaisant pour le sujet. Eh bien, il y a une espèce d'indifférence qui s'élève à ce moment-là dans l'esprit. Et cette indifférence, c'est ce qu'on appelle l'opacité mentale. J'aime bien le terme indifférence parce que c'est plus large que l'opacité. Dans l'indifférence, le fait de ne pas agir, cet acte de ne pas agir n'est pas ce que l'on appelle le non-agir. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans cet acte que conduit l'indifférence, il y a toujours la notion de cette ignorance. L'indifférence ne peut s'élever que lorsque l'ignorance est toujours présente. Et ce désir attachement, cette aversion et cette indifférence, c'est ce qui forme ce qu'on appelle les trois poisons de l'esprit. Parce qu'en fait, eh bien, tant que notre esprit est soumis à la non-reconnaissance de sa véritable nature, tant qu'il est soumis à cette ignorance, il agit sous l'emprise de ces trois poisons. On agit parce qu'on veut, on agit parce qu'on ne veut pas, on agit parce qu'on s'en fout. En gros, c'est comme ça. Et ça, c'est le mode de fonctionnement, en fait, de tous les êtres qui sont dans le samsara. Et observer ce qui se passe dans le monde, en rajoutant deux autres facteurs perturbateurs qui s'élèvent à partir toujours de cette ignorance, à savoir la jalousie et l'orgueil, tout ce que vous entendez aux infos, dans le style catastrophe, de ce qu'on fait les uns, les autres, etc. Vous êtes sûr qu'il y a un de ces cinq facteurs perturbateurs qui est présent dans l'esprit du protagoniste. Le monde, en fait, fonctionne à partir de la manifestation de cette ignorance. Et sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, les uns agissent comme si, les autres agissent d'une autre façon, et ça produit les phénomènes, ça produit le karma, etc. Donc, en fait, c'est une espèce d'enchaînement ou de production sans fin, et qu'on appelle aussi production conditionnée parce qu'elle est produite par cette ignorance fondamentale. Un moi, un sujet qui s'affirme très fortement, et plus il s'affirme fortement, plus les facteurs perturbateurs vont être puissants. Et c'est pourquoi on dit que lorsque on médite et que on commence à méditer l'aktong, la vision pénétrante, la façon de savoir si la méditation porte ses fruits, c'est lorsque cette saisie égotique, cette conception d'un moi qui est aussi puissante, aussi forte, aussi dure comme ça, si elle se relâche, si elle s'ouvre un peu, si elle se détend, alors ça montre que la méditation, elle commence à porter des fruits. Et que c'est au-delà d'une compréhension intellectuelle de la nature de la vacuité. Mais par la méditation, cette notion de vacuité commence à intégrer les conditionnements mêmes de l'esprit. Mais ça va prendre du temps. Alors j'aime bien les scientifiques aujourd'hui qui commencent à percevoir que par la science, Einstein et d'autres et les successeurs, ils commencent à voir ça. Mais moi ce que je trouve de fantastique, c'est qu'il y a un bonhomme, il y a 2500 ans, qui a découvert ça simplement par sa vie intérieure, par son observation intérieure. Les scientifiques aujourd'hui, ils s'en approchent, mais ils n'ont pas encore réalisé. Et comme bonhomme, sans aucun instrument, simplement par l'observation du fonctionnement de son esprit, à réaliser cela. Et ça, c'est le propre du bouddhisme. C'est ça que propose le bouddhisme. Et il faut tendre vers cette réalisation. Alors bien sûr qu'il y a tout un chemin pour arriver à cette réalisation. Mais l'objectif du dharma, l'objectif de la voie, c'est d'arriver à réaliser ce non-soi de l'individu et ce non-soi des phénomènes. Et tant qu'on ne l'a pas réalisé, on peut avoir peur de cette réalisation. Parce que non-soi, mais si je réalise le non-soi de ce que je suis, est-ce que je ne vais pas disparaître? Mais non, je vais continuer d'être ce que je suis, parce que cette non-reconnaissance de la nature de ce que je suis, c'est juste une construction. C'est simplement, je ne vois pas ce que je suis. Je me conçois comme autre chose. Mais la réalisation de l'éveil, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas obtenir quelque chose, c'est voir. Enfin, je vois ce que je suis. Et cette illusion de croire que je suis autrement, une entité propre, autonome, etc., c'est cette illusion-là qui, dans l'éveil, s'évanouit complètement. Mais rien ne change dans notre façon d'être, notre façon de vivre, etc. Parce que cette ignorance n'a jamais existé, c'est juste une construction. Et c'est cela qu'on appelle la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, c'est la nature même de toute chose. Et ça définit vraiment le terme Mahamudra, hein, la grande empreinte, c'est-à-dire la nature absolument de toute chose. Donc une division s'est au contraire installée sous l'effet de laquelle la vacuité s'est figée dans la notion d'un moi, d'un sujet, tandis que la clarté est devenue l'autre, l'objet. Bien que cette dualité sujet-objet soit fictive, nous lui attribuons une réalité. Nous nous trouvons dès lors dans l'erreur, dans l'illusion. Illusion et dualité se réfèrent au même défaut de fonctionnement. C'est la tâche qui recouvre notre esprit. Bien qu'en réalité nous soyons dépourvus de dualité en raison de notre absence de réalisation, nous vivons continuellement en termes de moi et autre séparés. Voilà. C'est l'objet de purification, c'est-à-dire c'est ce dysfonctionnement-là dont il faut se débarrasser. Bon, notre travail méditatif est clairement défini. C'est ce dysfonctionnement-là sur lequel il faut travailler. Et on ne peut pas travailler sur ce dysfonctionnement d'emblée. Pour les personnes qui méditent depuis peu de temps, il faut commencer par le calme, par calmer l'esprit. Ça, c'est obligatoire, je dirais. Parce qu'il faut établir la vigilance. Cette vigilance, c'est ce qu'on appelle la méditation de Shiné, le calme mental. Et la méditation de cette connaissance transcendante qui permet de voir les choses telles qu'elles sont, c'est ce qu'on appelle l'aktong ou la vision pénétrante. Et donc il y a des Rinpoche qui enseignent de façon très progressive pour rester pendant 3 ans sur Shiné et ensuite on passe à l'aktong. Et puis vous avez des Rinpoche qui enseignent de façon plus conjointe Shiné et l'aktong, comme par exemple Rinpo Rinpoche. Hein? Mais c'est indispensable d'établir la vigilance dans notre esprit. Parce que sans la vigilance, eh bien, nous allons être sous l'emprise des facteurs perturbateurs et nous en serons conscients alors que nous serons en plein sous l'emprise déjà. En plein sous leur emprise. Par la vigilance, nous pourrons voir émerger les facteurs perturbateurs. Et il y a de temps en temps, on va se laisser avoir, on va piquer une colère. Oui, bon, d'accord. Mais si au cours de notre pratique, nous voyons que nous avons davantage de vigilance, c'est-à-dire une conscience plus fine au moment de l'apparition de ces facteurs perturbateurs, alors là, nous pouvons nous dire que cette vigilance, elle s'installe. Elle devient plus... Eh ben oui, elle s'installe plus naturellement dans notre esprit. L'observation aussi de ce qui se passe en termes de phénomènes intérieurs, comme je le dis souvent, ça fait partie de l'installation de la vigilance. Et il ne faut pas se dire que, même si on médite depuis 20 ans, qu'on n'avance pas, qu'on ne fait pas de progrès parce qu'on en est toujours là. Avant que cette vigilance, elle devienne naturelle dans l'esprit, il faut un certain entraînement, il faut, voilà. Bon. Mais cette vigilance-là, elle doit nous permettre, eh bien, d'être à même de reconnaître l'apparition des facteurs perturbateurs et de reconnaître que ces facteurs perturbateurs, ils sont dus à la non-reconnaissance de la nature, de la vacuité et de la clarté. Donc c'est l'objet de purification, le dysfonctionnement dont il faut se débarrasser. La dualité est adventice, ce qui signifie qu'elle ne fait pas partie de l'essence de l'esprit. Elle est une simple erreur. Et c'est pourquoi il est possible de l'éliminer. Parce que ce serait impossible si elle était de la nature même de l'esprit. Voilà pourquoi l'éveil est possible. Parce que l'ignorance, c'est juste, enfin c'est juste, entre guillemets, mais on va dire c'est juste une construction de l'esprit. C'est une erreur. Et donc, il faut éliminer cette erreur, et à ce moment-là, la nature même de l'esprit, eh bien, se révèle. Et à ce moment-là, c'est l'éveil. Et on appelle ça l'éveil, pourquoi? Ben parce qu'on s'éveille, on se réveille, on voit les choses telles qu'elles sont. Et le fait de voir les choses telles qu'elles sont, alors ce fonctionnement basé sur l'ignorance disparaît mais immédiatement. Donc il n'y a plus ces facteurs perturbateurs, il n'y a plus production de karma et tout ça. Le purificateur, c'est la méthode. C'est ce qui permet d'éliminer la dualité. Et ce sont tous les aspects du dharma, et plus particulièrement la pratique adamantine du Mahamudra, comme dit la strophe. Cette pratique adamantine, de la nature du diamant, du Mahamudra, comprend Shiné, le calme mental, l'Aktong, la vision supérieure. Ces méditations apprennent à laisser demeurer l'esprit dans son essence, là où il est libre de la dualité. Et toutes les pratiques formelles, toutes les pratiques rituelles, par exemple, ce week-end, on a eu un yugné à Luce. 9 heures de pratique par jour, avec des visualisations à n'en plus finir, et de la cloche et du tambour. Enfin, le rituel tibétain dans tout ce qu'est un rituel tibétain. Mais vous retrouvez dans ces rituels-là la même chose que vous retrouvez dans le zen. Et il faut que ce soit clair, ça. Il y a des personnes qui sont dans le zen qui disent « Ah non, dans le bouddhisme tibétain, ils construisent des tas de choses. Dans le zen, il faut au contraire éviter de tout construire, etc. » Et il y en a qui, dans le bouddhisme tibétain, disent « Mais dans le zen, ils font juste chiner. » Je suis désolé, ils font pas que chiner, ils font aussi l'aktong. Dans toutes les pratiques du dharma, quelles que soient les écoles, vous avez chiné, l'aktong, le calme mental et la vision pénétrante. Si vous n'avez pas ces deux éléments qui par la pratique vont devenir un, vous ne pouvez pas réaliser l'éveil. Ce qui fait la différence des écoles, c'est les différences de méthode. Simplement, différence de méthode. Il y en a qui préfèrent s'asseoir et simplement respirer face à un mur. Ça, c'est le Zen Soto. Ben, ceux qui aiment ça, c'est très bien. Il y a cette façon d'associer Shiné et l'Aktong de cette façon-là. Il y en a qui préfèrent associer Shiné et l'Aktong en jouant de la cloche, en jouant du tambour, en visualisant des tas de bitoniaux de toutes les couleurs, dans tous les sens. C'est très bien. C'est aussi une gymnastique de l'esprit. Mais cette gymnastique de l'esprit, elle est faite pour associer Shiné et l'Aktong. Et c'est là où, en Occident, dans la pratique du Vajrayana, il y a un risque. Et un risque qui, aujourd'hui, a tendance à se généraliser. Et c'est pas vraiment moi qui le dis, il y a des Rinpoche qui le disent, c'est que les Occidentaux ne comprennent pas vraiment le sens des rituels du Vajrayana. Et ils pratiquent de plus en plus le Vajrayana de façon théiste. C'est-à-dire que ces yidam, ces symboles de méditation, ils les voient comme des dieux, des déesses qui ont une certaine existence par eux-mêmes. Et alors, je l'invoque pour ne pas être malade, je l'invoque pour que ma mort se passe bien, je l'invoque pour purifier telle chose, etc. Et à ce moment-là, on est alors vraiment dans une pratique théiste, c'est-à-dire dualiste. Les lamas tibétains, quand ils sont arrivés en Occident, ils ont enseigné directement ces méthodes propres au Vajrayana. Aujourd'hui, ils disent que c'était une erreur. Parce qu'il faut commencer vraiment par Shiné et l'Aktong, c'est-à-dire s'appuyer sur ces méthodes de méditation que l'on voit dans les sutras et qui sont communes à toutes les écoles. Je sais bien que Shiné et l'Aktong est présent dans les tantras, dans les pratiques du Vajrayana, mais ayant une bonne pratique de la vigilance et de la vision pénétrante avant de commencer à vouloir jouer du Damaru et les visualisations et tout ça. Donc ces méditations apprennent à laisser demeurer l'esprit dans son essence, là où il est libre de la dualité. C'est pourquoi tout à l'heure en méditation, j'insistais sur le fait d'être dans cet aspect connaissance de l'esprit qui voit les objets s'élever, mais qui ne s'identifie pas à eux et qui, malgré la présence en termes de clarté, eh bien cette conscience reste claire, paisible, et totalement détendu, en paix, en état de paix. Et plus nous progressons dans la méditation, plus nous nous purifions des tâches de la saisie du elle. Lorsqu'elle est totalement éliminée, la nature immaculée de l'esprit se révèle. Quand cette actualisation devient permanente et libre de tout voile, c'est l'éveil. Cela sous-entend qu'on peut avoir des expériences de cette union de la vacuité et de la clarté. Et il y a quelquefois une expérience qui peut s'élever et voilà, il y a vue de la nature de l'esprit. Seulement, c'est une expérience, donc elle est temporaire, elle ne va pas être stable. Ce qu'on appelle l'éveil, c'est lorsque cette expérience est stable et que plus rien ne peut venir la bousculer. Et l'ancien Kalwa Rinpoche insistait beaucoup sur le fait que lorsque un pratiquant a une expérience de la nature de l'esprit, le pire des dangers, c'est de s'arrêter de pratiquer. Parce que ce n'est qu'une expérience. Et que les tendances, si on ne maintient pas cette vigilance et l'entraînement de l'esprit, eh bien les tendances qui sont formées par cette ignorance, eh bien elles reprennent le dessus. Parce que l'ignorance, eh bien elle n'est pas déracinée à 100%. Et tant qu'il reste un embryon de cette ignorance, eh bien elle continue de manifester un dysfonctionnement de l'esprit. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter lorsqu'on a par hasard une expérience de la nature de l'esprit. Mais lorsque cette expérience devient stable, permanente, libre de tout voile, c'est l'éveil, la réalisation du corps absolu, c'est-à-dire le dharmakaya, au-delà de toute complication mentale. Et c'est le résultat de cette purification, ce qui, au niveau du fondement, était caché par les impuretés, apparaît désormais dans sa pureté originelle. C'est là, c'est déjà là. Simplement recouvert. Vous cherchez. Déblayer. Voilà. La purification, c'est ça. On déblaye les voiles. On enlève ce qui recouvre cette nature éveillée. Alors, entraînez-vous à le plus souvent possible lorsque vous sentez que le moi s'affirme, rappelez-vous que c'est la vacuité qui ne se reconnaît pas et qui donc s'affirme en termes de sujet. Donc ça, c'est vraiment l'illusion même, quoi. Et à partir de l'affirmation de ce moi, faites expérience que tous les objets, eh bien, sont vus comme différents de vous. D'où la peur de tel objet, d'où le désir de tel objet, ou l'attrait, ou la crainte, ou l'aversion, etc. Mais essayez de voir ça plutôt comme un jeu, je dirais. C'est-à-dire toujours avec détente dans l'esprit. Et il y a des personnes qui écrivent des fois parce que leur vie devient un enfer de par leur pratique, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont là constamment en train d'observer leur esprit, mais elles sont là comme ça, quoi. Et ça devient une cocotte minute, et au bout de quelques jours, mais elles ne peuvent plus vivre tranquillement, quoi. Parce qu'elles sont toujours dans cette observation avec une tension en permanence, quoi. Et c'est ce que veut dire Ringo Rinpoche quand il dit, mais relax, relax. Il le dit beaucoup moins maintenant, et il dit qu'il le dit moins parce que les gens ne comprennent pas ce qu'il voulait dire. Relax dans le sens de, mais soyez détendu dans votre pratique, quoi. Soyez détendu. On peut très bien observer ce qui se passe dans notre esprit en appréciant un coucher de soleil, quoi. Et pas en se disant, oui, mais j'apprécie, mais alors, qui apprécie? Oh, mais là, il y a une grosse saisie, qui apprécie, etc. Il faut pas que j'apprécie une saisie gothique, etc. Non, appréciez. Mais quand vous appréciez, ne soyez pas dupe. C'est tout. Mais continuez d'apprécier, quoi. Faites-vous plaisir sans être dupe. Qu'il y a quelqu'un vraiment qui va absolument être heureux parce que il fait cette expérience qui est agréable à l'esprit. Mais vivez cette expérience agréable si elle est agréable. Ne la rejetez pas. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui disent « Je ne peux plus rien apprécier parce que dans le fait d'apprécier quelque chose, il y a une saisie. » Mais attendez, il y aura une saisie tant qu'elle ne sera pas déracinée. Tant qu'on n'aura pas réalisé l'éveil, il y aura une saisie dans tout ce qui, dans tout ce qu'on va vivre. Alors, vivons tout ça avec un peu plus d'humour et de détente, quoi. Le travail ne peut pas se faire si on est en tension permanente dans l'observation de notre esprit. Ça, c'est impossible. C'est cocotte minute. Hein. Ça explose. Quelquefois, il est bon dans la pratique, et on a vu ça par exemple dans le Nyungne, hein, qu'on vient de terminer à Luz, parce que c'est 9 heures de méditation, hein, dans la journée. Donc quand vous restez 2 heures assis à réciter pendant 1 heure le même mantra, il y a des moments ça coince, quoi. On se dit, mais il ne va pas bientôt taper sur son bol, non, pour que ça aille plus vite, ou qu'on passe à autre chose, justement, damaru, cloche, ça bouge un peu. Mais de temps en temps, c'est intéressant de voir si on dépasse le truc, ce qui se passe dans l'esprit. Si vraiment ça coince, il vaut mieux arrêter de méditer et se lever à ce moment-là. Mais quelquefois, de dire, je fais l'expérience. Je prends le risque de pousser un peu. Et quelquefois, ça lâche à ce moment-là. Ça lâche. Et alors là, quand ça lâche, mais l'esprit reste, alors se détend immédiatement. Et alors, on est très bien dans l'assise, dans le fait de... Mais dans le zen, je ne sais pas s'il y a des personnes qui pratiquent le zen ici, mais dans le zen, ils ont des pratiques telles que le ratsu, ou je ne sais plus quoi. Et c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'assise, quoi. Et si vous ne lâchez pas, et vous devenez mais que ça en étant assis. Alors dans le zen, vous ne bougez pas, quoi. Parce que chez les Tibétains, j'ai mal ici, bon, moi je me tortille, je déplie une jambe. Mais dans un zen, on ne bouge pas, quoi. Comme ça, et ça ne bouge pas. Et alors, il y a des tensions qui peuvent s'élever, mais c'est à sauter au plafond, quoi. Et c'est fait exprès. Parce qu'à un moment donné, c'est soit vous sautez au plafond, soit ça se détend intérieurement, ça lâche. Les Tibétains sont très bons pour charger la monture, pour que ça lâche. Et quelquefois, ils nous placent dans des situations où franchement, on en a déjà là, mais ils voient que l'esprit résiste, l'esprit, oh, il faut que j'y aille, il faut que je tienne, etc. Alors, comme il y a une grosse résistance, bah, apparemment, il n'y a pas encore assez de... C'est pas encore assez chargé, quoi. Alors, il rajoute une dose. Et alors là, c'est soit vous explosez, soit vous dites, intérieurement, oui, tout lâche. Des questions ? Merci.